الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة الرابعة عشر من شهر الله المحرم من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدرس الثالث والمجلس الثالث في قراءة وشرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 23 septembre 2018 et nous voici réunis pour le troisième cours, la troisième assise de l'étude du livre La servitude de l'imam, le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Ce livre, par lequel il répond à une question que lui a posée un homme concernant la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Ya ayyuhannas u'budu rabbakum » الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Cet homme lui a alors demandé, de quoi s'agit-il quand on parle de l'adoration? Quelle est sa définition? Quelles en sont les différentes catégories? Est-ce que toute la religion rentre dans l'appellation de l'adoration? Et il a demandé à l'imam, rahimahullah, de lui détailler la question. Et nous sommes dans la troisième assise, après avoir vu quelques définitions relatives à l'adoration, et après avoir vu également le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait montré que ses anges ont été qualifiés par la servitude, ils ont été décrits comme étant des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et les serviteurs pieux aussi. Cheikh al-Islam, rahimahullah, continue et dit, وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْمَسِيحِ الَّذِي دُعِيَتْ فِيهِ الْإِلَهِيَّةُ وَالنُّبُوَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a également parlé de Isa alayhi salam, celui pour lequel on a dit, ou celui au sujet duquel on a osé dire qu'il est la divinité méritant l'adoration, alors qu'il est un prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, azza wa jal, a dit, « In huwa illa abdun, il n'est qu'un serviteur, an'amna alayhi, que nous avons comblé de nos bienfaits, wa ja'alnahu mathalan li bani Israël, et nous en avons fait un modèle pour la tribu des Banu Israël. » Et pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le récit, n'exagérez pas à mon égard comme l'ont fait les chrétiens à l'égard du fils de Maryam, Isa alayhi salam. Je ne suis que son serviteur. Dites donc, il est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'est-ce que l'on voit dans ces deux textes, ce verset et ce récit? Le statut des prophètes. Ils sont des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à travers ces deux textes, on voit également, comme nous l'enseigne le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, l'interdiction d'exagérer à l'égard du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et l'obligation de lui reconnaître sa véritable place. Quelle est-elle? La servitude, le sujet du livre. Il est un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est interdit d'exagérer et de donner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des caractéristiques réservées à Allah, subhanahu wa ta'ala. L'adoration, ne doit être voué qu'à Allah. Les gens du livre, parmi lesquels les chrétiens, ont exagéré à l'égard du prophète Isa alayhi salam. Ils l'ont élevé de son rang de serviteur au rang de divinité. C'est ça même l'exagération qu'Allah Azza wa Jal nous a interdite. Ils ont dit, pour certains, Al-Masih ibnullah. Le Masih, le Messie, Isa alayhi salam, est le fils d'Allah. Wal-iyadu billah. D'autres ont dit, Wasammawhu bil-ilah wal-ibn. Ils ont dit, c'est le fils d'Allah, subhanahu wa ta'ala, premièrement. Ou alors ils ont dit, c'est la divinité et le fils. Wal-iyadu billah. Et cette parole est une forme de polythéisme majeur et de mécréance majeure. Le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre cela en disant à ses compagnons et à tout musulman qui viendra après eux, la totroni, n'exagérez pas à mon égard, ne dépassez pas les limites fixées. Je suis un messager, je suis un prophète, un serviteur d'Allah. Je suis un serviteur d'Allah, vous n'avez pas à m'adorer, je n'ai pas le droit à l'adoration. Je suis un messager, un prophète, vous n'avez pas à me démentir, vous devez me suivre. Ça c'est le juste milieu. On croit qu'il est un serviteur d'Allah, donc on ne peut pas l'adorer. Mais en même temps, on croit qu'il est un messager, donc on doit le suivre. C'est la voix d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au prophète Isa, alayhi salam, Allah azza wa jal nous enseigne également qu'il n'a pas le droit à l'adoration, en aucun cas. C'est une réponse aux exagérateurs du soufisme, comme nous le dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qui ont exagéré à l'égard des pieux, à la tête desquels le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en lui vouant des adorations qui ne doivent être vouées qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire aux musulmans de dire « Muhammad est le serviteur et le messager d'Allah » sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous le dit le Cheikh Al-Fawzan, « وَكَفَاهُ بِذَلِكَ شَرَفًا وَفَخْرًا » Il lui suffit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir ce statut de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما مسألة الألوهية والعبادة فإنما هي لله سبحانه وتعالى. Quant à la question du droit à l'adoration, ceci est réservé uniquement à Allah. Aucun n'a le droit à cela, même s'il s'agit d'un ange ou d'un prophète envoyé par Allah. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله. Allah Azza wa Jal a décrit également son prophète sallallahu alayhi wa sallam par la servitude. La servitude, c'est son état, comme on l'a déjà dit, le fait qu'il est serviteur d'Allah. Allah Azza wa Jal l'a décrit par ce statut-là de serviteur dans les situations, les contextes les plus louables. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Isra, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Dans le sens rapproché du verset, exempt soit celui qui de nuit a fait voyager son serviteur depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, qui se situe où? En Palestine. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a fait ce que l'on appelle le voyage nocturne et l'ascension. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous cite dans ce verset un fait de la vie du prophète alayhi salatu wassalam extrêmement important. Car c'est en même temps un miracle le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait pu en une seule nuit quitter la Mecque pour aller jusqu'à la Palestine, puis s'élever grâce à Allah Azza wa Jal au-dessus du septième ciel. Allah Azza wa Jal lui a parlé, il l'a entendu. C'est là qu'il lui a prescrit les prières que nous appliquons au jour d'aujourd'hui. Et il a vu le paradis, l'enfer. C'est quand même un énorme privilège, n'est-ce pas? Et pourtant, qu'est-ce que l'on remarque? Que malgré tout cela, il a été appelé « bi'abdihi », son serviteur. Malgré tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu, il n'a pas dépassé le rang de la servitude. Il n'a pas le droit à l'adoration. Est-ce que, autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ce qu'il a fait? A fait plus que lui? A fait l'équivalent de lui? Quelque chose de ressemblant? Non. Pourquoi alors ils sont adorés en dehors d'Allah? Alors que le prophète, alayhi salatu wa salam, a fait tout cela. Et pourtant, il a été appelé serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qala fil iha, Allah Azza wa Jal a également dit au sujet de la révélation. La révélation, c'est quelque chose d'immense, n'est-ce pas? D'important. Fa'auha ila abdihi ma auha. Il a révélé à son serviteur ce qu'il a révélé. Encore une fois, on voit le rang du prophète alayhi salat wa salam. Wa qala fi da'wa, il a également dit, Allah subhanahu wa ta'ala a également dit dans le contexte de l'appel, la du'a, l'invocation d'Allah azza wa jal, wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Dans le sens rapproché du verset, il s'agit du moment où le prophète alayhi salat wa salam se tenait debout à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en fallait de peu pour qu'il s'attaque à lui sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que l'on voit ici? Qama abdullah, quand le serviteur d'Allah s'est levé pour l'invoquer. Comment est-ce qu'il a été décrit ici? Serviteur d'Allah. Également dans un autre contexte qui est celui du défi qu'Allah Azza wa Jal a lancé à ces gens qui ne croyaient pas au fait que le Coran est la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal leur a dit: Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans le doute quant à ce que nous avons fait descendre vers notre serviteur, c'est-à-dire Allah, si vous doutez de ce qu'Allah a fait descendre à son serviteur, on parle ici du Coran, si vous doutez du Coran et vous dites qu'il est la parole d'un homme, non pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, fa'tu bi suratin min mithlih. Venez avec une sourate pareille, semblable. Et d'autres passages encore où l'on voit que dans les meilleurs moments, dans les meilleures situations, le prophète alayhi salatu wassalam est décrit comme étant un serviteur d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme serviteur et non pas comme divinité méritant l'adoration. Nous dit le Sheikh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, les situations qui ont été citées ici sont les plus louables, les plus meilleures, et malgré cela, il n'a pas été élevé au-dessus de son statut qui est celui de la servitude du serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au premier verset que l'on a cité, c'est comme nous l'avons dit, ce fait historique de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où pendant la nuit, il a eu à quitter la Mecque pour rejoindre la Palestine en montant sur une monture qui lui a été réservée, que l'on appelle Al-Buraq. Et Al-Buraq, c'est une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme quelqu'un monterait sur le cheval, lui il est monté sur le Buraq, une créature qui lui est réservée. Une de ses spécificités, c'est que le Buraq, lorsqu'il fait un pas, son pas atteint la portée de sa vue. Donc, ça vous laisse un peu voir la puissance d'Allah et la capacité à créer ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, et également pourquoi est-ce que En si peu de temps, il a réussi à partir de la Mecque et rejoindre la Palestine. Et après cela, après avoir passé un moment au niveau de la Palestine, il a été élevé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, j'en profite pour corriger une erreur sur laquelle on avait attiré mon attention dans le livre Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, où j'avais dit que le prophète alayhi salatu wassalam a eu le voyage nocturne sur le Burak et l'ascension. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait le voyage nocturne sur le Burak de la Mecque à la Palestine. Mais l'élévation vers les cieux, ce n'est pas avec le Burak. C'est avec ce que l'on appelle Al-Mi'raj, comme a dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Et on ne sait pas, on n'a pas de détails sur cela. L'essentiel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'ascension nocturne sur autre que le Burak. Alhamdulillah, je remercie Allah de m'avoir aidé à me souvenir de cela, car je voulais le corriger, mais je l'avais oublié. Alhamdulillah. Ensuite, il a cité Tabaraka wa ta'ala, la révélation. Comme vous le savez, c'est énorme la révélation. Il a cité l'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et invoquait Allah à la Mecque, où il accomplissait la prière, ils s'étonnaient tous de cela. Ils s'étonnaient tous de ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils n'avaient pas l'habitude. Ils avaient l'habitude d'adorer les idoles. Ils avaient l'habitude d'adorer les objets inertes. Ils avaient l'habitude d'adorer les arbres, les statues, etc. Et ensuite, on voit le verset du défi où Allah Azza wa Jal s'adresse à ces gens-là qui croyaient que le Coran n'était pas la parole d'Allah, mais plutôt celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a inventé des mots et qui a été aidé par autre que lui pour les placer, pour les organiser, de sorte à ce que l'on fasse croire aux gens que c'est la parole d'Allah. Allah Azza wa Jal leur dit dans ce verset, étant donné que vous croyez que c'est la parole d'un homme et qu'un homme est comme vous, alors amenez vous aussi un chapitre, une sourate semblable à celle-ci. Allah tabaraka wa ta'ala en réalité leur a lancé plusieurs défis. Dans ce verset, on voit qu'il nous dit qu'il a lancé à ces gens-là le défi d'amener une sourate semblable. Dans un autre verset, 10 sourates. Dans un autre verset, une parole semblable à celle-ci. Donc on voit à chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a pris, leur a lancé un défi, et pourtant jusqu'au jour où je vous parle, personne n'a su faire une sourate semblable à celle du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela prouve? Que c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est inutile de se fatiguer pour rien. Et cette parole est protégée et préservée par Allah. Allah Azza wa Jal a dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes le gardien. Et j'en profite pour attirer l'attention sur ce qu'il arrive de diffuser à certaines personnes lorsqu'elles disent « Attention, dans tel endroit, dans telle ville ou dans tel pays, ils ont inventé un Coran » Et ont ajouté des mots venant d'eux ou ont retiré des sourates. Il faut absolument propager l'information de peur que les gens ne s'égarent. Arrête de te fatiguer. Le Coran, il est protégé par Allah tabaraka wa ta'ala. Va en Ouzbékistan et tu verras des enfants de 5 ans qui le connaissent par cœur. Tu peux pas inventer quelque chose. Même si on prend tous les livres, il y a des centaines de milliers de gens qui le connaissent par cœur. Pour beaucoup d'entre eux, ils ne connaissent même pas l'arabe. Le Coran, il est préservé par Allah. Ne perdez pas votre temps avec ses imbécilités et ses idioties. Barakallahu fikum. Le Cheikh rahimahullah nous dit, j'entends par le Cheikh Ibn Taymiyyah, فالدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين. Il nous dit ainsi, la religion tout entière entre dans l'appellation de l'adoration. La religion tout entière entre dans l'appellation de l'adoration. Tout ce qui est adoration est religion, tout ce qui est religion est adoration. Il continue à répondre à la question de la personne qui lui demande « وَهَلْ مَجْمُوعُ الدِّينِ دَاخِلٌ فِي الْعِبَادَةِ » Est-ce que toute la religion entre dans l'appellation de l'adoration? Vous avez un mouchoir? Car on a un invité qui est venu assister au dars. S'il sort avec le tawhid, ni'ma. Voilà. Non? Quoi qu'il en soit, moi je reviens dans mon cours. Attrapez cet insecte et enlevez-le. Barakallahu fikum. Tayyib. Cet homme lui a demandé, est-ce que toute la religion entre dans l'adoration? L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui répond ici, effectivement, toute la religion entre dans l'adoration. Puis il va citer deux preuves à cela. La première preuve, c'est un hadith. Et la deuxième preuve, c'est ce qui va venir, c'est le sens linguistique du mot « din » et celui du mot « adoration » où vous allez comprendre le lien entre ces deux mots. Premièrement, la preuve du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est connu de tous, même s'il n'est pas mémorisé, mais il est connu. En général, on l'appelle « hadith Jibril ». Le hadith de Jibril, on l'appelle aussi « Ummu Sunnah ». La mère ou la base de la sunna, en raison de ce qu'il renferme en lui. Ce hadith, c'est l'histoire où l'ange Jibril, alayhi salam, s'est présenté au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sous la forme humaine. Et les compagnons qui l'ont vu arriver ne le connaissaient pas. Il était étrange de voir un homme étranger, mais sur lequel aucun signe de voyage n'apparaissait. Car autrefois, quand on voyageait, il n'y avait pas tous ces nouveaux moyens utilisés aujourd'hui. Les gens voyageaient et on voyait les cheveux ébouriffés, décoiffés, les vêtements pleins de poussière, on voyait les traces de fatigue sur le visage de la personne. Mais cet homme qui arrive a des cheveux d'un noir, brillant et porte des vêtements d'un blanc étincelant. Il n'a aucune trace de fatigue ni de voyage. Les compagnons sont étonnés. Cet homme se rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de coller ses genoux contre les siens, poser ses mains sur ses cuisses et il lui dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « L'islam, c'est que tu dises « La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, que tu accomplisses la prière, que tu jeûnes le mois de Ramadan, que tu t'acquittes de l'aumône et accomplisses le pèlerinage si tu en as la capacité. » Cet homme lui dit, « Sadaqt, oui, tu as dit vrai. » Les compagnons s'étonnent, comme nous dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, « Yas'aluhu wa yusaddiqo. » Il l'interroge et atteste qu'il est véridique. Parce qu'à la base, celui qui interroge n'interroge que pour avoir une réponse. Comment peut-il interroger puis valider sa réponse? C'est qu'il la connaît. Ça intrigue les compagnons. Cet homme continue et lui dit « Informe-moi sur la foi ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui définit les six piliers de la foi. Que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin qu'il soit, qu'il apparaisse bon ou mauvais. Cet homme lui dit « Tu dis vrai, informe-moi sur la bienfaisance ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Cela consiste à adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit ». Cet homme lui dit « Informe-moi sur l'heure. Quand est-ce que le jour dernier arrivera ?» Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit « L'interrogé n'est pas plus connaisseur de ce sujet que l'interrogateur. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse à cela. » Et ça montre que ni le prophète alayhi salatu wa salam qui est le meilleur des hommes, ni Jibril alayhi salam qui est le meilleur des anges ne connaissent quand est-ce qu'arrivera l'heure. Donc, personne d'autre qu'eux. C'est une science réservée à Allah. Et à la fin, il lui demande des signes de l'heure. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui informe des signes de l'heure. Puis cet homme s'en va. Les compagnons le laissent partir, ils sont tous étonnés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, interpelle Omar, radiyallahu anhu, et lui dit « Atadri man issa'il ? Sais-tu qui est l'interrogateur ?» Omar, radiyallahu anhu, lui dit « Allah wa rasuluhu a'lam. » Allah et son messager sont plus savants. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit « Hada Jibril. » C'était Jibril. « Ja'akum yu'allimukum dinakum. » Il est venu vous enseigner votre religion. Comment est-ce qu'il est venu leur enseigner alors qu'il a posé des questions? Les savants disent « Celui qui pose une question dans le but de faire profiter aux gens de la réponse » alors que lui-même est connaisseur, c'est un enseignant. Il a enseigné aux gens. Des fois, tu sais que le message va passer avec une personne. Alors, tu interroges cette personne en présence d'une autre personne que tu voulais appeler à Allah, que tu voulais convaincre de cette question religieuse. Le savant que tu as interrogé va donner la réponse et la personne va l'accepter. Et ça, c'est une manière d'enseigner, de poser une question pour que les autres entendent la réponse. Ainsi, ce que l'on retient de ce récit, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé les cinq piliers de l'islam, parmi lesquels l'attestation de foi, la prière, le jeûne et les autres. Il a détaillé les piliers de la foi. Il a détaillé ce qu'est la bienfaisance ou alors l'excellence d'adorer Allah comme si tu le vois et si tu ne le vois pas, lui te voit. Après avoir parlé de tout cela, et tout cela en réalité réunit toute la religion, tu n'as qu'à méditer sur tes actes cultuels, tes actions d'adoration. Tu verras qu'ils sont rattachés à ces cinq piliers. Et médite sur ta croyance, la croyance qu'on te demande d'avoir, tu verras qu'elle est rattachée à ces six piliers de la foi. Donc toute la religion tourne autour de cela. C'est pour ça que Jibril alayhi salam, ou pardon, le prophète sallallahu alayhi salam a dit « Il vous a enseigné votre religion ». C'est-à-dire que dans ce hadith, on trouve les bases fondamentales de la religion dont on ne cesse d'apprendre les branches. Qu'est-ce que l'on retient ? Pilier de la foi, des adorations, pilier de l'islam, pardon, des adorations, pilier de la foi, des croyances, on voit des actions, et tout cela a été appelé comment ? Din. Donc tout cela entre dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça c'est une preuve que toute la religion est une adoration. C'est la preuve de ce récit. Walhamdulillah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit فدل على أن الإسلام والإيمان والإحسان كل ذلك داخل في الدين. Ceci nous prouve que l'islam, la foi, la bienfaisance, tout cela entre dans la religion. وأن الدين شامل لكل أنواع العبادة من إسلام وإيمان وإحسان. Et que la religion englobe toutes les catégories d'adoration, parmi lesquels ce qui est en rapport avec l'islam, la foi, la bienfaisance. Ensuite, Cheikh al-Islam rahimahullah dit: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان أي ذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام c'est-à-dire الدين le دين la religion a dans le sens linguistique du terme la notion du rabaissement ou de l'humiliation. Quand on dit l'humiliation, c'est l'humiliation de la personne. Dans le mot din, qu'on a traduit par religion, dans la langue arabe, si on remonte au sens de base de ce terme, qu'est-ce qu'on retrouve comme notion ? La notion du rabaissement, de l'humiliation. C'est pour cette raison d'ailleurs que la dette, comment est-ce que l'on l'appelle en arabe ? Dain. C'est exactement les mêmes lettres que le mot din. Pourquoi est-ce que la dette a été appelée dain? Parce que celui qui est endetté est rabaissé devant son créancier à qui il doit cette somme d'argent. En quelque sorte, n'est-ce pas? Il a quelque chose, il lui est redevable de quelque chose, il est rabaissé. Pour ça qu'on a appelé la dette dain. Le mot din, qu'on a traduit par religion, a en lui la même notion. La notion de l'humiliation, de rabaissement. Il s'agit ici de s'humilier devant Allah par son obéissance. De se rabaisser devant Allah. De reconnaître Allah sa grandeur et reconnaître notre propre faiblesse et notre manque. On dit dans la langue arabe, dintuhu fadana. Ou alors on dit, pour vous faciliter, par exemple, quelqu'un qui se nomme Ahmed, on dit de lui Dana Ahmed. C'est une phrase en arabe, avec un verbe et un sujet. Le verbe c'est Dana, c'est humilié. Et Ahmed c'est le sujet. Ahmed c'est humilié, dans le sens linguistique. C'est-à-dire il s'est rabaissé. On dit aussi, pour celui qui pratique pour Allah, Yadinullaha. Ahmadu yadinullaha, c'est-à-dire Ahmad pratique pour Allah. On dit aussi Ahmad yadinu lillah, ça veut dire la même chose. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est là où on arrive. Cela veut dire ya'budullah wa yuti'ullah, il adore Allah, il obéit à Allah. Par exemple, je dis adinullaha bis salati. Moi, vous, nadinullaha bis salati, nous pratiquons pour Allah par la prière. Quel est le terme employé? Din, le verbe. Et qu'est-ce que cela veut dire? On se rabaisse devant Allah par l'accomplissement de la prière. Adinullaha bis zakati, je me rabaisse devant Allah par l'accomplissement de l'aumône, l'acquittement de l'aumône. J'adore Allah, j'obéis à Allah, je me rabaisse devant lui. Donc vous voyez qu'il y a le même sens que l'on retrouve dans l'adoration. Puisque nous dit le Cheikh Ibn Taymiyyah, al-ibada aslu ma'naha, le terme ibada lui aussi, dans la base de son sens linguistique, on retrouve la même notion, celle de ce que l'on appelle en arabe adhul, l'humiliation. Comment cela? On dit par exemple d'un chemin qui a été foulé par les gens qui ont marché dessus, lorsque vous allez sur une pelouse, et vous voyez qu'il y a dans cette pelouse une voie, une petite route, où les gens ont tellement marché dessus qu'il n'y a plus d'herbe, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on appelle ce chemin-là en arabe? Tariqun mu'abbad, une voie usée. Comment est-ce qu'on a appelé usée? Mu'abbad, qu'est-ce qu'on retrouve? Les mêmes lettres retrouvées dans le mot ibada. Il y a encore la notion d'avilissement, de rabaissement. Comprenez? Qu'est-ce que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah veut nous enseigner ici? Il veut nous prouver, après l'avoir fait par le hadith, que même dans la langue arabe, dans les sens de base de ces deux termes que sont din et ibada, on retrouve la même notion, qui est de se rabaisser devant Allah. Pourquoi tout ça? Pour nous faire comprendre qu'au final, tout ce qui est din est ibada, et tout ce qui est ibada est din. Tout ce qui est religion est adoration, et tout ce qui est adoration est religion. Pour répondre à la question de l'interrogateur. Ensuite, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. Et là, c'est extrêmement important. Il nous dit: mais, écoutez bien, mais l'adoration qu'on a reçu l'ordre d'appliquer, là maintenant, on passe au sens religieux. Dans le sens linguistique, on a vu qu'il y a la notion de rabaissement, n'est-ce pas? Mais dans le sens religieux, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait de s'humilier devant Allah par l'adoration. تَتَضَمَّنُ مَعْنَ الذُّلْ وَمَعْنَ الْحُبِّ. Ce terme, ibada, dans la religion, englobe le sens de l'humiliation accompagné du sens de l'amour. Celui qui adore Allah, tabaraka wa ta'ala, l'adore avec amour et humiliation. C'est-à-dire qu'il s'humilie devant celui qu'il aime. Il se rabaisse devant celui qu'il aime. Et c'est ça la servitude. Et c'est lui le serviteur. Le serviteur, c'est celui qui adore Allah avec amour et qui se rabaisse devant lui. Donc, appliquons cela avec la prière. Appliquons cela avec le pèlerinage. Celui qui prie, il s'humilie devant Allah. N'est-ce pas que lorsque tu poses au sol ce que tu as de plus cher, qui est ton visage, tu le rabaisses au plus bas pour celui qui est au plus haut, Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant cela, tu te rabaisses devant Allah. Tu t'humilies devant lui. Cette humiliation, tu l'as fait avec de l'amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. Dès lors que l'humiliation est accompagnée de l'amour, nous parlons de l'adoration. Vous comprendrez pourquoi ce détail important. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: فَهِيَ تَتَضَمَّنُ غَايَةَ الذُّلِّ لِلَّهِ بِغَايَةِ الْمَحَبَّةِ لَهِ. Ainsi, l'adoration réunit en elle le summum de l'humiliation pour Allah, mais aussi de l'amour pour lui, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il va nous citer les différents degrés d'amour. Il nous dit: فَإِنَّ آخِرَ مَرَاتِبِ الْحُبِّ هُوَ التَّتَيُّمُ وَأَوَّلُهُ الْعَلَاقَةِ لِتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِالْمَحْبُوبِ ثُمَّ الصَّبَابَةِ لِانْصِبَابِ الْقَلْبِ إِلَيْهِ ثُمَّ الْغَرَامِ وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها التتيم يقال تيم الله أي عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه. Pour vous résumer cela, Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité différentes catégories d'amour. Comme nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, l'amour en fonction de son intensité a plusieurs degrés. Ces degrés ont des noms dans la langue arabe. Ces degrés ont des noms dans la langue arabe. Il y a le premier degré que l'on appelle al-alaqa. C'est une traduction approximative que je vous donnerai. Al-alaqa, c'est la liaison. Le fait que tu sois lié à celui que tu aimes. Plus loin, il y a plus haut, il y a al-sababa. C'est l'attachement. Encore plus que celui-là, il y a al-gharam. C'est l'attachement très fort. Ensuite, il y a al-ishq, encore plus fort. Et ensuite, il y a at-tatayyum. Et at-tatayyum, c'est le fait d'être épris par celui que tu aimes. L'essentiel à retenir, c'est quoi? C'est que l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala réunit en elle le fait de s'humilier pour Allah, mais de l'aimer aussi. Pourquoi préciser cela? Là, vous allez comprendre l'importance. Le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala nous dit que l'adoration n'est pas simplement le fait de s'humilier devant Allah sans amour. Pareil, n'est pas simplement l'amour sans s'humilier devant lui. Il nous dit, celui qui s'humilie devant une chose sans l'aimer n'est pas adorateur de cette chose. On prendra en exemple ce qu'a cité le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, celui qui, sous les ordres d'un tyran, il est rabaissé devant lui, il lui obéit, est-ce qu'il l'aime? Il ne l'aime pas. Celui qui obéit aux ordres de celui qui le domine, car il est plus fort que lui, il a plus de moyens que lui, il est humilié devant lui, mais est-ce qu'il l'aime? Non. On ne dit pas de lui qu'il est en train de l'adorer alors. Pareil, celui qui aime sans s'humilier devant lui, on ne dit pas qu'il est en train de l'adorer, comme celui qui aime son fils, qui aime sa femme, son père, sa mère. Il y a ici l'amour, mais il n'y a pas l'humiliation devant. Cette humiliation que l'on fait à Allah, pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà l'importance de l'adoration. Cheikh Abd al-Razak al-Badr, hafidhahullah, nous dit que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le début du livre, a défini l'adoration comme étant tout ce qu'Allah aime et agrée comme action et parole cachée et apparente, n'est-ce pas? Et maintenant, il nous dit que l'adoration, c'est l'humiliation et l'amour pour Allah. Il n'y a pas de contradiction. C'est que la première définition, on s'intéresse aux actions. Et dans la deuxième, on s'intéresse au cœur du serviteur. Donc l'adoration, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala, comme parole, comme action, apparente ou cachée, et qui doit être fait avec humiliation et amour pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'adoration d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit ensuite: وَمَنْ خَضَعَ لِإِنسَانٍ مَعَ بُرْضِهِ لَهُ لَا يَكُونُ عَبِدًا لَهُ. Quiconque s'humilie devant un homme, tout en le détestant, n'est pas un adorateur pour lui. وَلَوْ أَحَبَّ شَيْئًا وَلَمْ يَخْضَعَ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَبِدًا لَهُ. Et s'il aime quelque chose sans s'humilier pour cette chose, il n'est pas adorateur de cette chose. كَمَا قَدْ يُحِبُّ وَلَدَهُ وَصَدِيقَهُ. Tout comme il peut aimer son enfant, son ami. وَلِهَذَا لَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Pour cela, l'un d'entre eux sans l'autre n'est pas suffisant dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَحَبَّ إِلَى الْعَبْدِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Il doit obligatoirement faire en sorte qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui soit plus aimé que toute chose. C'est ça l'amour qu'Allah azzawajal mérite. Qu'Allah soit plus aimé que toute autre chose, que tout autre parmi ses créatures. وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَعْظَمَ عِنْدَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Et qu'Allah azzawajal soit plus immense pour lui que toute chose. بَلْ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَحَبَّةَ وَالذُّلَّ التَّامَّ إِلَّا اللَّهِ. Nul autre qu'Allah ne mérite l'amour complet et l'humiliation totale. وَكُلُّ مَا أُحِبَّ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَحَبَّتُهُ فَاسِدَةٌ. Qu'est-ce qui en découle maintenant? Tout ce qui a été aimé pour autre qu'Allah, cet amour est corrompu. Tout ce qui a été aimé pour autre qu'Allah, cet amour est corrompu. وَمَا عُظِّمَ بِغَيْرِ أَمْرِ اللَّهِ كَانَ تَعْظِيمُهُ بَاطِلًا. Et tout ce qui a été considéré grand et immense, tout ce qui a été admiré, immensifié, en dehors de l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien cette chose aussi est nulle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam muslim d'après Anas ibn Malik radiyallahu an, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Il existe trois choses. Dès lors qu'elles se réunissent dans la personne, celle-ci aura goûté à la saveur de la foi. Qu'est-ce qu'il cite en premier ? An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que toute autre chose, que quiconque et toute autre chose. Deuxièmement, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Qu'il n'aime une personne que pour Allah. Troisièmement, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu. كما يكره ان يقذف في النار. Qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé. Après qu'Allah l'en ait sauvé, c'est-à-dire soit de base quelqu'un qui est né et qui a grandi musulman, ou qu'il en a sauvé après en l'ayant guidé à l'islam. Après qu'Allah l'en ait sauvé, tout comme il détesterait être lancé dans le feu. On voit donc dans ce hadith et dans le verset qui va venir aussi, inshallah, l'obligation de faire passer Allah, Azza wa Jal, avant toute chose, et de l'aimer plus que tout, subhanahu wa ta'ala. Et qu'il va découler de cela, d'aimer ce qu'Allah aime, et de détester tout ce qu'Allah déteste, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait d'aimer pour autre qu'Allah, cet amour est faux. Les liens entre les gens, lorsqu'ils sont noués pour autre qu'Allah, pour des intérêts mondains, ils ne durent pas. La moindre dispute, et c'est comme si ces gens qui ont vécu tant d'années ensemble ne se sont jamais connus. Ce lien n'était pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque le lien est pour Allah, il perdure. Lorsque le lien n'est pas pour Allah, il ne dure pas. Ensuite, il nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens rapproché du verset, dis, c'est-à-dire adresse-toi à eux, ô toi le prophète, et transmets-leur cette parole qui va suivre. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre tribu, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez la faillite, les maisons dont vous êtes satisfaits, vous sont plus aimés qu'Allah et son messager. Et à la fin du verset, فَتَرَبَّصُوا, attendez alors, jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son ordre. Subhanahu wa ta'ala. Combien de choses ont été citées ici? 8, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et ces choses-là sont des choses qui sont aimées de l'homme. Qui n'aime pas, à la base, le père, l'enfant, le frère, l'épouse, la tribu, les biens acquis, le commerce qu'il a mis en place grâce à Allah, les biens immobiliers, n'est-ce pas? Tout cela a été cité par Allah dans ce verset. Mais Allah Azza wa Jal nous interdit pas d'aimer ces choses, comme nous dit le Cheikh Fawzan. Mais ce qui nous est interdit, c'est de faire passer ces choses devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Dès lors que ces choses ont pris le dessus sur notre prière, sur notre lien avec Allah, sur notre adoration à Allah, là cet amour est gravissime. Chez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit fatarabbasu, attendez donc, hatta ya'ti Allahu bi amrih, jusqu'à ce qu'Allah arrive avec son ordre. Ça c'est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Nous dit le Cheikh Al-Fawzan, nous dit, Celui qui aime ces choses à la base n'est pas blâmé pour cela. Mais comme nous l'avons dit, il est blâmé dès lors qu'il fait passer ces choses-là avant Allah. Il nous donne ensuite un exemple. فَالَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنِ الْهِجْرَةِ Ceux qui se sont mis en arrière par rapport à la hijra. Allah Moustah. Par rapport à l'émigration. Au fait d'aller vivre dans les pays d'islam. مِنْ أَجْلِ الشُّحْ بِأَوْطَانِهِمْ أَوْ مَحَبَّةً لِأَمْوَالِهِمْ تَوَعَدَهُمُ اللَّهِ Ceux qui ne l'ont pas fait, car ils sont attachés à l'endroit où ils sont, ou alors ils aiment tellement leurs biens, ils se disent je ne vais pas trouver ma subsistance, Allah les a menacés dans ce verset. C'est-à-dire, attendez qu'Allah arrive avec son ordre. Al-Sheikh Al-Fawzan nous dit, ولذلك ترك المهاجرون أموالهم وديارهم وخرجوا وليس معهم شيء. Pour cette raison, les émigrants du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont délaissé leurs biens, leurs maisons et sont sortis sans rien avec eux. مع أنهم يحبون هذه الأشياء. Malgré le fait qu'ils aimaient toutes ces choses-là. ولكنهم تركوها لله عز وجل. Mais ils les ont délaissés pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَقَدِّمُوا مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ عَلَى مَا تُحِبُّهُ نُفُوسُهُمْ Ils ont fait passer ce qu'Allah aime devant ce que leur âme aime. وَلِذَلِكَ نَالُوا الشَّرَفَ وَالثَّنَاءَ وَالْجَزَاءَ الْعَظِيمَ مِنَ اللَّهِ subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison qu'ils ont bénéficié des louanges, des éloges, pardon, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah les a cités dans beaucoup de versets. Ceux qui ont émigré, Allah azza wa jalla les a cités dans beaucoup de versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous dit, فَجِنْسُ الْمَحَبَّةِ تَكُونُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ كَالطَّاعَةِ فَإِنَّ الطَّاعَةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْإِرْضَاءَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ وَالْإِتَاءُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا الْعِبَادَةُ وَمَا يُنَاسِبُهَا مِنَ التَّوَكُّلِ وَالْخَوْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. À la base, l'amour peut être destiné à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le voyez dans le verset, comme vous le voyez dans le verset et comme on l'a entendu aussi dans le hadith. Certes, l'obéissance, elle peut aussi être destinée à Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. La recherche de l'agrément peut être destinée à Allah et à son messager. Allah azza wa jalla dit dans le sens du verset, Allah et son messager sont plus en droit pour que vous recherchiez leur agrément. Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a donné, comme Allah dit dans le sens rapproché du verset, وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Si seulement ils étaient satisfaits de ce qu'Allah et son messager leur a donné. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a fait un partage avec ses compagnons, c'est bien quelque chose qui vient d'Allah. Uniquement. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que son prophète leur donne physiquement. Donc dans ces sens-là, on peut dire que l'amour est destiné à Allah et à son messager. L'obéissance, la recherche de l'agrément est destinée à Allah et son messager. Et quand on dit l'amour, on ne parle pas de l'amour qui est l'adoration. Vous comprenez ? L'amour dans le sens où on aime celui que l'on adore, ça ce n'est que pour Allah. subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla, on l'aime en lui-même, pour ses noms, pour ses attributs. Vous voyez la différence? Cheikh al-Fawzan hafidhahallah nous dit: هناك أشياء مشتركة بين الله والرسول عليه الصلاة والسلام. Il y a des choses qui sont associées entre Allah عز وجل ou partagées et son prophète صلى الله عليه وسلم. Donc vous avez compris que ces choses-là ne relèvent pas de l'adoration, car l'adoration elle n'est pas partagée entre Allah et son prophète عليه الصلاة والسلام. Parmi ces choses-là, il y a l'amour. On doit aimer Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala fait découler l'amour du prophète alayhi salatu wa sallam. Pareil pour l'adoration, l'obéissance, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Pareil pour la recherche de la satisfaction. Bien sûr, ici, du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car maintenant, il est décédé. Mais, nous dit le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, wa amma al-ibada wa ma yunasibuha, quant à l'adoration, l'adoration stricte, pure, celle qui doit être vouée à Allah, azza wa jal, et ce qui s'y rattache, min al-tawakkul, comme tawakkul, la confiance que l'on place en Allah Azza wa Jal, wa al-khawf, la peur, wa nahwi dhalik, et c'est semblable, parmi les adorations du cœur notamment, fala yakunu illa lillahi wahda. Ces choses-là ne sont que pour Allah uniquement, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, dit, ô vous les gens du livre, les gens du livre, particulièrement ici, les gens du livre. Non. Ô vous les gens du livre, venez à une parole commune et juste. Venez à une parole commune et juste. Quelle est cette parole juste et commune entre nous? Alla na'buda illallah. Que nous n'adorions qu'Allah. Wa la nushrika bihi shay'a. Sans rien lui associer. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et que certains d'entre nous ne prennent pas d'autres en Seigneur en dehors d'Allah. فَإِنْ تَوَلَّوْا. S'ils se détournent, c'est-à-dire de cette proposition que tu leur as faite, فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dis-leur, soyez témoins que nous autres, nous sommes soumis. C'est-à-dire, nous sommes soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce à quoi le muwahhid, le monothéiste, appelle les autres. Il les appelle à une parole juste, une parole commune. Cette parole, c'est la ilaha illallah. C'est l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a créés et qui nous a donné la subsistance. N'est-ce pas la parole la plus juste? N'est-ce pas la parole qui est plus à même de réunir tous les habitants de la terre? Allah Azza wa Jal donne l'ordre au prophète, alayhi salatu wassalam, d'appeler les gens à prononcer cette parole et à adhérer au sens qui en découle, c'est-à-dire le monothéisme, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et que certains d'entre nous ne prennent pas d'autres en Seigneur en dehors d'Allah. Comment cela se manifeste-t-il? Le Cheikh nous dit: أي لا نتخذ من دون الله من يحللون ويحرمون من عند أنفسهم. Que nous ne prenions pas en dehors d'Allah ceux qui déclarent licites et illicites des choses en portant un jugement venant d'eux-mêmes. Ceux qui disent halal, haram, sans se baser sur la parole d'Allah, ils se basent sur eux-mêmes. Ils décident que c'est halal, ils décident que c'est haram. C'est de cela qu'Allah Azza wa Jal nous parle. Le Cheikh nous dit: وكذلك لا نتقرب لأحد من الخلق بأي نوع من أنواع العبادة، لا الذبح ولا النظر ولا غير ذلك من أنواع العبادة، فكل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى. Tout comme on ne doit pas se rapprocher de quiconque parmi les créatures par un acte d'adoration. On ne doit pas sacrifier, immoler pour un autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne doit pas formuler un vœu pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, car ce sont des adorations strictement réservées à Allah, subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ تَوَلَّوْا S'ils se détournent de cela et ne l'acceptent pas, dis-leur alors, soyez témoins que nous autres, nous sommes soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le résumé de l'appel de l'islam. L'appel de l'islam, c'est d'appeler les gens à la parole « La ilaha illallah » s'ils ne veulent pas se soumettre, alors qu'ils soient témoins que nous autres, nous sommes soumis. وَقَالَ تَعَالَى وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ فَالْإِتَاءُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ كَقَوْلِهِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَأَمَّا الْحَسْبُ وَهُوَ الْكَافِي فَهُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك الله سبحانه وتعالى. L'imam rahimahullah nous dit également, Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens rapproché du verset, si seulement ils étaient satisfaits de ce qu'Allah et son messager leur ont donné, et s'ils avaient dit حسبنا الله الله nous suffit. سيؤتينا الله من فضله Allah va nous donner de ses grâces. ورسوله et son prophète. إنا إلى الله راغبون nous sommes pleins d'espoir envers Allah. Qu'est-ce que tu remarques dans ce verset? Allah تبارك وتعالى a cité des choses qui peuvent être partagées entre Allah et son prophète alayhi salat wa salam, et il a cité ce qui est réservé à Allah. Quelles sont ces choses? Le fait que Allah azza wa jalla ait dit qu'Allah et son messager ont donné. Allah et son messager ont donné. Le don à la base, il ne vient que d'Allah, n'est-ce pas? Mais physiquement, qui est-ce qui a donné? C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par la permission d'Allah. Et ensuite, tout de suite après, وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ Si seulement ils étaient satisfaits de ce qu'Allah et le messager leur ont donné, et s'ils avaient dit Allah nous suffit. Au moment de parler de la suffisance, ils n'ont pas dit Allah et son messager. Ils n'ont pas dit Allah et son messager nous suffisent. Ils ont dit « Allah nous suffit, subhanahu wa ta'ala ». Ils ont dit « Inna ilallahi raghibun ». Nous sommes pleins d'espoir envers Allah. Ils n'ont pas dit ici « envers Allah et son messager ». On comprend qu'il y a des choses, dès qu'elles relèvent de l'ordre de l'adoration, elles sont uniquement vouées à Allah et réservées à lui. D'autres choses, lorsqu'elles ne font pas partie de l'adoration, on peut dire pour Allah et pour son messager, sallallahu alayhi wasallam. Quant à celui qui suffit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans le sens rapproché du verset, ceux à qui les gens ont dit, des gens se sont réunis contre vous, craignez-les donc, cela n'a fait que grandir leur foi. Ils ont dit, Allah nous suffit, et quel merveilleux garant. Il fait allusion, subhanahu wa ta'ala, à un fait de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Uhud, lorsque les polythéistes se sont réunis dans le but d'attaquer le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons, ils ont envoyé quelqu'un pour essayer de mettre dans leur cœur la peur. Et ils lui ont dit, beaucoup de gens se sont réunis, ils veulent mettre fin à vos jours. Craignez-les, attention, fuyez. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Et quel merveilleux garant. Que s'est-il passé? Allah Azza wa Jalla a dit, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. Ils sont repartis avec un bienfait et une grâce d'Allah. Aucun mal ne les a atteints et ils ont suivi l'agrément d'Allah. Al-Sheikh Al-Fawzan nous explique que dès lors qu'ils ont placé leur confiance uniquement en Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'au lieu de craindre cet appel, ils ont dit, Hasbun Allah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit, quel merveilleux garant. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés de tout mal. Et ils n'ont pas été atteints. Walhamdulillah. Également dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché, ô toi le prophète, Allah te suffit et il suffit aussi aux croyants. C'est-à-dire, Allah est suffisant pour toi et pour les croyants. Pourquoi est-ce qu'il précise bien cela? Car certains ont fait erreur dans la lecture de ce verset et ils ont pensé que ce qui est voulu est Allah et les croyants te suffisent. Et ça, c'est une énorme erreur qui va être soulignée par l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Lorsqu'il dit, وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَعْنَى حَسْبُكَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشًا كَمَا قَدْ بَسَطْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. وقال تعالى, أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. Ibn Taymiyyah رحمه الله dit, et quiconque pense que le sens de cela est Allah te suffit avec les croyants aussi, Allah et les croyants qui sont avec lui te suffisent, il aura commis une grave erreur. Comme on l'a montré, nous dit le Cheikh, dans plusieurs autres passages. Allah Azza wa Jalla a dit, Alaysa Allahu bikafin 'abda. N'est-ce pas qu'Allah est suffisant à son serviteur? Cette question, n'est-ce pas qu'Allah est suffisant à son serviteur? Allah n'attend pas de réponse de notre part. Il n'attend pas de réponse, subhanahu wa ta'ala, de notre part. Et ce n'est que pour confirmer cette information et ce fait. Oui, Allah est suffisant à son serviteur. La suite du verset d'ailleurs est la suivante. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ. Il cherche à te faire peur par autre que lui, avec autre qu'Allah. Ils veulent que tu craignes autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. N'est-ce pas qu'Allah est suffisant? Subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour cette assise et on reprendra le week-end prochain inshallah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.